بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فأجردوي le 15 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Usul al-Sunnah de l'imam al-Mubajjal, imam Ahl al-Sunnah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année ? Imam Ahmed est mort en quelle année, ayyuhal ikhwa ? On l'a répété dans le cours précédent, qui est l'auteur de 241. Al-Musnad. 241, Ahsan Tchir, barakallahu fik, en 241 de l'Hégire. Rahimahullah ta'ala. Son livre donc, Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, les repères de la Sunnah, comme vous le traduisez. Les fondements donc de la Sunnah. Comme d'habitude, je vais évoquer ici la voie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre. Donc, le livre de référence que j'utiliserai ici, ou le commentaire de référence que j'utiliserai ici, est le commentaire de Al-Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala. Je me contenterai de le résumer. Encore une fois, pourquoi j'évoque la voie que je vais emprunter, comme ça, on sait, dans les cours prochains, pourquoi le frère, il n'a pas lu telle et telle partie. J'ai dit, ma condition dans nos assises, nos cours ici, c'est de résumer le livre. Donc je ne lirai pas tout, et ceci revient à l'appréciation de l'enseignant. Pour telle et telle raison, je ne lirai pas certains passages. Donc je vais résumer le commentaire de Al-Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi. Je vais lire la traduction, parfois traduire moi-même, et j'apporterai parfois des annotations, soit d'autres commentaires de nos savants, car c'est un livre, ou sur le sunnah de l'imam Ahmed, qui a été commenté et expliqué par nombre de nos grands savants de la sunnah. Parmi eux, nous trouvons l'allama, al-sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, de même que Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah azza wa jal, et autres que eux, parmi les savants de la sunna, parmi ceux qui sont morts, rahimahumullah, et parmi les vivants d'entre eux, hafidahumullah, comme Sheikh Rabi', comme Sheikh Abdurrahman Muhiddin, et autres. Donc, parfois je rapporterai des bénéfices tirés de ces autres commentaires. À ce moment-là, je préciserai qui est l'auteur de la parole que je rapporte, et je rapporterai aussi des règles, comme on a l'habitude de faire, des règles et des définitions comme on a l'habitude de faire dans nos cours précédents. Ici, j'avancerai un petit peu plus vite et je rapporterai des règles que nous n'avons pas vues, des définitions que nous n'avons pas vues ou des précisions sur des définitions que nous avons vues dans l'étude des livres qui ont précédé. Car c'est cela, le fait de s'élever dans la science petit à petit. On voit certaines définitions et l'enseignant les laisse parfois incomplètes. Puis il rajoute et il complète au fur et à mesure que l'on s'élève dans la science, que l'on avance dans l'étude de la science. Parfois aussi, j'aurais délaissé dans les cours précédents, dans les livres précédents que j'ai expliqués, j'ai délaissé certaines définitions qui sont importantes que je donnerai maintenant. Et ceci revient à l'appréciation de l'enseignant par rapport à ce qu'il voit de ceux qui étudient avec lui. S'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris, si à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment de donner telle et telle définition. Barakallahu fikum. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de définitions fondamentales dans Al-Aqidah ou Al-Manhaj, puisque ce livre, Usul Sunnah de l'imam Ahmed, traite de la Sunnah et de Al-Manhaj, de la croyance, car effectivement, lorsque nous disons Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah, le terme Sunnah ici ne désigne pas la Sunnah dans son terme particulier, qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est comme on l'a expliqué dans les cours de Mustalah, si vous vous rappelez, la sunna, c'est quoi ? C'est quoi ?
Les paroles et les approbations.
Les approbations. De même que ses caractéristiques physiques et morales. Donc la sunna, dans la terminologie plus particulière, c'est les actes, paroles, approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses caractéristiques physiques et morales. Ça, c'est la sunna, dans sa terminologie plus particulière. C'est ce qu'on a étudié dans la science de l'mustalah. Ici, la sunna, À un sens plus général, il désigne l'ensemble de la religion. Il désigne la croyance, la voie, le manhaj. Donc ici, les fondements de la sunna, les fondements, les bases de la croyance, du manhaj, de la voie des gens de la sunna et du groupe. Il a donc un sens, ce terme, il a donc ici un sens plus général que le sens dans la terminologie. L'auteur de ce livre, l'imam al-Mubaddal, imam ahl al-Sunnah, il est appelé imam ahl al-Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 241 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez cela. Et je vous promets, incha'Allah ta'ala, que soit durant nos cours de l'étude de ce livre, soit à la fin, c'est-à-dire après que nous ayons terminé ce livre, de faire un cours entier sur la biographie de ce grand imam. Vous allez voir dans le cours d'aujourd'hui l'importance de connaître la biographie de ce grand imam, rahimahullah, et d'autres parmi les imams, les grands imams de notre communauté. Donc ce livre, comme je l'ai dit, traite des fondements de la sunna, d'après son terme plus général, la croyance, le manhaj, la voix des gens de la sunna et du groupe. Ici, al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Matkhali, hafidahullah ta'ala, dit, dans le sens de ses paroles, dans son introduction au livre, et c'est ce que nous prendrons aujourd'hui, l'introduction à ce livre de référence chez les gens de la sunna, comme vous allez le voir. Pour ne pas multiplier les paroles, alors que Sheikh, dans son introduction, a donné le résumé profitable de ce que je pourrais dire et bien plus encore. Hafidahullah ta'ala. Il dit, dans le sens de ses paroles, quelles que soient les conditions, la croyance islamique prêchée par tous les messagers d'Allah occupe une place capitale dans l'islam, puisqu'elle constitue, la croyance, l'aqidah, elle constitue le fondement de l'islam et le repère qui distingue la bonne religion de la mauvaise. De ce fait, les savants de l'islam, et je veux parler des savants de la sunna et du consensus, Ahl sunna wal jama'a, accordent une importance au fait d'exposer cette croyance, de l'expliquer, l'aqidah, la croyance. Après avoir recherché dans les dictionnaires, plusieurs dictionnaires français, le terme le plus proche pour traduire le terme aqidah sera le terme croyance et non dogme ou doctrine. Pour certaines raisons, ceux qui veulent les connaître, ils reviennent à ces dictionnaires, et encore une fois, je vous renvoie sur ce site, le Centre National de Ressources Linguistiques, CNRTL, sur Internet, vous le trouvez, et vous verrez que le terme qui se rapproche le plus de l'aqida, comme on va l'étudier ici, la définition de l'aqida, est croyance, et non dogme ou doctrine. De ce fait, les savants de l'islam, je veux parler des savants de la sunna et du consensus, Ahl sunna wal jama'a, accordent une importance au fait d'exposer cette croyance, de l'expliquer et de la prêcher et de la défendre. Ils ont écrit des livres dont certains sont consacrés à ce sujet. Qu'est-ce que l'aqidah, la croyance? L'aqidah, ça vient de l'aqd, qui est le nœud. L'aqd, le nœud. L'aqidah, c'est ce à quoi c'est lié comme un nœud. Le cœur, parmi les croyances et les certitudes, et ces croyances sont la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes ou ses messagers, le jour dernier et la prédestination bonne ou mauvaise. Ce à quoi s'est lié le cœur comme croyance et certitude, ces croyances qui sont la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement, la prédestination bonne ou mauvaise. Voici ce que l'aqida. On entend l'aqida, l'aqida. Mais qu'est-ce que l'aqida? C'est ce que je viens de vous dire ici. L'manhaj, la voie. Est-ce que la croyance, l'aqida, c'est l'manhaj? Ou est-ce qu'ils sont différents? Et est-ce qu'on peut les dissocier l'un de l'autre? On a déjà vu cela par le passé. L'manhaj, la voie, est quelque chose de plus global. C'est ce qui englobe la croyance et autre que cela. La croyance, de même que les œuvres, les pratiques de l'islam, les comportements de l'islam, et ce manhaj, qui est le manhaj de l'islam, c'est le manhaj qui a été suivi par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été suivi par ses compagnons, radiyallahu anhum, après eux, puis par nos pieux prédécesseurs. As-salafu salih. C'est pour ça qu'on dit la voie de nos pieux prédécesseurs. Manhaj as-salaf salih. Al-manhaj as-salafi, c'est-à-dire la voie des prédécesseurs. Al-manhaj as-salafi, la voie de ceux qui nous ont précédés dans le bien. D'où est-ce qu'on prend cela ? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Voici ce que le manhaj. Est-ce qu'on peut dissocier la croyance et le manhaj ? Non ? Hein ? Ah. On a déjà évoqué ceci précédemment. Une personne peut avoir une bonne aqida et un mauvais manhaj, c'est ça ? Ceci est une erreur qui est commise par les gens de l'innovation et c'est une grande porte par laquelle ils rentrent pour venir pervertir le manhaj du salafi. Ces deux sont indissociables. Ces deux choses sont indissociables. Et les gens de l'innovation, en particulier Al-Halabiyoun, Wal-Ma'ribiyoun et autres, comme je l'ai traité précédemment, ont essayé de rentrer par cette porte pour dissocier la croyance et le manhaj afin de faire rentrer dans la voie des pieux prédécesseurs al-manhaj salafi ceux qui n'en font pas partie. Et ceci est l'expression qui a été donnée par Abul Hassan al-Ma'ribi lorsqu'il dit al-manhaj al-wasi'ul afyah. Il voulait un manhaj, une voie qui est large, une voie large qui englobe tout le monde. Quelqu'un qui sort fisabilillah comme ils le prétendent, le khuruj fisabilillah comme ils le prétendent, donc jama'at tablir, mais qui a une croyance sur les noms et attributs d'Allah Azzawajal, qui est la croyance conforme aux gens de la sunna, ils disent ta'ala ma'ana, tu es avec nous, viens avec nous. Et ça, en réalité, cette base, ce fondement vient de qui ? Hein ? Ahlul bid'ah. Mais qui parmi ahlul bid'ah ? Al-Ikhwan, les frères musulmans, et leurs règles d'or. On se réunit sur ce sur quoi on s'entend, on est d'accord et on s'excuse l'un l'autre sur nos désaccords. Et chacun des gens de l'innovation qui se sont prétendus de ce manhaj ont pris cette règle-là et l'ont appliquée ou l'ont nommé d'une autre manière, ceci comme un talbis. Vous vous rappelez de talbis dans les sciences du hadith, dans le mustalah, un talbis. Ils ont obscurci le nom et ils l'ont nommé d'une autre sorte. Vous voyez ? Ceci est très important, les deux sont indissociables. Une personne ne peut pas avoir une bonne croyance et un bon manhaj, c'est impossible. Puisque dans la croyance, comme on va le voir ici, parmi les fondements de la sunna, le suivi des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit tadlis ou talbis ici ?
Talbis.
Ils font du tadlis et du talbis. Ahsant. Ils font du tadlis, ils obscurcissent la chose. Et ils font du talbis. Ahsantum. Ashir de dire, ainsi des livres de petits et de grands volumes ont été édités à ce sujet, parmi lesquels je citerai. Ici, Ashir nous donne le nom de certains livres qui sont des livres de référence dans l'aqidah chez les gens de la sunna. Ici, simplement, avant de les évoquer, j'évoquerai une division qu'on fera sur les livres de la sunna. On a les livres qu'on appelle les livres de croyance musnada, c'est-à-dire, vous voyez, le musnad, on l'a étudié dans la science du hadith ici, avec la chaîne de transmission. Ces livres qui sont rapportés, qui rapportent les croyances des gens de la sunna avec la chaîne de transmission, comme ce livre, Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam al-Lalaka'i, Hibatullah Abul Qasim, Hibatullah al-Lalaka'i, qui est ce livre duquel nous rapportons, ou qui nous rapporte, Usul al-Sunna de l'imam Ahmed. Et ce livre-là, c'est un livre qui rapporte donc les croyances des gens de la sunna avec une chaîne de transmission. C'est des livres qui sont beaucoup plus gros. Vous voyez celui-ci, par exemple, il est en 5 volumes. Et les livres qui rapportent le résumé de la croyance des gens de la sunna comme les fondements de la sunna ou sur le sunna de l'imam Ahmed. Ici, Ashir nous évoque, nous dit « As-sunna de Abdallah ibn Ahmed », un livre musnad avec les chaînes de transmission. As-Sunna de l'Khalal, pareil avec les chaînes de transmission. As-Sharia de l'Ajurri, pareil avec les chaînes de transmission. Sharh Usul al-I'tiqad de l'Alaka'i, avec les chaînes de transmission. Les deux intitulés de l'Ibana d'Ibn Battah. Un des deux, Al-Kubra, avec les chaînes de transmission. Et l'autre, Ibana d'Ibn Battah, Al-Sughra, sans les chaînes de transmission. Et ces livres qui rapportent le résumé de la croyance des gens de la Sunna sans les chaînes de transmission, nous avons les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, et nous avons les fondements de la Sunna de Al-Humaydi, nous avons plusieurs livres, même parmi ceux qui sont venus après, comme Al-Aqid Al-Wasitiya, que vous connaissez tous, qui rapporte le résumé de la croyance des gens de la Sunna de Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, et autres que cela, parmi ces livres qui rapportent le résumé de la croyance, et généralement c'est ces livres-là que nous étudions chez les savants, que nous étudions entre frères étudiants et autres que ça, car ces livres-là, ce sont des livres vers lesquels nous revenons plutôt pour la lecture et la révision. Chir de dire tout ceci parce que ces éminentes personnalités connaissent la place qu'occupe la croyance, et que quiconque dévie de l'un de ses préceptes ou de ses fondements s'expose à un danger. Concernant cette déviation, elle peut soit être une incrédulité, une ignorance, soit une hérésie, une bid'a, une innovation, soit un égarement dalal, qui peut tendre vers la mécréance, qui est une sorte d'égarement. C'est pourquoi les étudiants en sciences islamiques sont dans l'obligation d'accorder de l'importance à l'étude de cette croyance et de ses fondements. Et je pense que vous savez également que dans le sahih de l'imam Al-Bukhari, il évoqua le livre de la foi, Kitab al-Iman, qui est, encore une fois, une question qui fait partie des devoirs qu'on avait demandé. Kitab al-Iman de Sahih al-Bukhari, c'est le numéro combien dans le Sahih? Hein?
Le deuxième.
Le premier?
Je trouvais que c'était le deuxième.
Ahsant. Le premier, c'est lequel? Badul Wahy. Le début de la révélation. Puis, al-Iman, puis... Al-Ilm, puis... Al-Tahara. Ahsantum. Il dit, Shir, le livre du cramponnement, Kitab al-I'tisam, et celui du Tawhid, l'unicité d'Allah, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. J'avais demandé ça aussi comme devoir. Le livre du cramponnement, Kitab al-I'tisam, et Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, c'est le combien dans le Sahih de l'imam al-Bukhari? Le dernier, Ahsantum. Et l'I'tisam, c'est l'avant-dernier. Tous ces livres-là, que ce soit l'Iman, ou l'I'tisam, ou al-Tawhid, traitent de la croyance et du cramponnement à la Sunna. Dans le livre de référence, on a dit le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est le deuxième livre après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le livre le plus véridique, le plus authentique après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les références, livre de base de la bibliothèque du musulman. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là? Le deuxième livre, Al-Iman, et les derniers livres, Al-Tawhid. Ces gens qui nous disent Tawhid, on entend toujours Tawhid, mais on ne connaît pas. Où est-ce que vous avez vu ce mot-là? L'imam al-Bukhari, mort en 256. Parmi nos pieux prédécesseurs, qui rapporte dans son Sahih, Kitab al-Tawhid. Aussi dans As-Sunan de Abu Daoud, comme je l'avais évoqué, on a le livre de la Sunna, le chapitre de la Sunna. De même que Ibn Majah, comme je l'avais évoqué dans sa Muqaddima, dans son introduction. Tous ces livres de référence, les mères de l'islam, les mères des livres de l'islam, rapportent un chapitre qui n'est pas des moindres sur la croyance et le suivi de la Sunna. Puis il dit, rahimahullah, et ce qu'il entend par le terme sunna regroupe la croyance et la méthodologie islamique, el manhaj, comme je l'ai dit. C'est ce qu'il dit Abu Daoud dans son livre Kitab al-Sunna, de même que Usul al-Sunna, ici de l'imam Ahmed, comme le dit Cheikh ici, regroupe la croyance et la méthodologie islamique, el manhaj. Le livre de la foi dans le Sahih de l'imam Muslim aussi rejoint également ses écrits consacrés à la croyance en raison de son importance. Parmi les livres résumés qui ont été édités dans le but d'exposer le dogme, la croyance ici, traduit par le dogme qui, comme je l'ai dit, d'exposer donc la croyance, figure ce livre, écrit par l'imam Ahmed, imam des partisans de la sunna et du consensus, Ahl sunna wal jama'a, cet éminent imam, modèle de la sunna, de foi, de l'ascétisme et de la piété, qui était une jauge et une épreuve, permettant de distinguer entre d'une part les partisans de la vérité de la sunna et d'autre part ceux de l'hérésie, de l'innovation et de l'égarement. En effet, sa méthodologie demeure une épreuve. Les fondements pour lesquels il a lutté et dans lesquels il a vécu sont jusqu'à présent une épreuve pour les gens. Je m'arrêterai ici et je donnerai juste un commentaire à cette partie de la parole du Shir. Il dit donc que l'imam Ahmed, l'imam des partisans de la sunna, est un modèle. Et il est une épreuve et une jauge. Une épreuve et une jauge. Une jauge par laquelle on juge les partisans de la sunna des partisans de l'innovation. Comment ça? Ici, il y a un sujet qui est connu chez les gens de la sunna comme étant « El-imtihanu bil-ashkhas ». c'est-à-dire le fait de faire un examen à quelqu'un par les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, pour résumer ? Tu cites un des savants de la Sunna, qui fait partie évidemment de ces imams. Ce n'est pas n'importe quel savant de la Sunna qui sera, comme l'a dit Cheikh ici, une jauge et une épreuve. Une épreuve ici, il parle d'un examen. Quelqu'un par qui tu examines, par qui tu jauges les gens. Tu aimes Ahmed ? Tu fais partie des gens de la Sunna. Tu détestes Ahmed ? Tu fais partie des gens de l'innovation. Et je vais y arriver. Et à toute époque, il y avait des imams comme cela. À toute époque, il y avait des imams comme cela jusqu'à nos jours. Ici, ce qu'on appelle donc l'imtihan bil ashras, l'examen par les gens. Et c'est quelque chose qui existe réellement. Nous le trouvons dans les paroles des anciens parmi as-salaf as-salih. Et concernant Ahmed, et concernant autres que lui, comme l'imam Malik, comme Hammad ibn Zayd, comme autres que eux parmi les imams de la sunna. Ce qu'on appelle donc l'affaire de l'imtihan bil ashras. Ceci n'est pas une innovation. Si tu veux connaître le manhaj de quelqu'un, cite-lui les imams de la sunna. Ne cite pas le frère Intel ou le cheikh Intel parmi les savants, parmi les étudiants en sciences qui sont sur une bonne voie. Mais non, on fait cet imtihan, cet examen par les imams de la sunna. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas te permettre de juger qu'une personne fait partie des gens de l'innovation ou qu'il est un ennemi de la sunna parce que tu as évoqué telle et telle personne parmi les étudiants en sciences. Non, ce n'est pas comme ça, par les imams de la sunna. Nous voyons que Abu Hatim, donc Ibn Abi Hatim, le fils de Abu Hatim, dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, rapporte de son père Abu Hatim des paroles. Ceci sous le sous-chapitre de la porte, ou le sous-chapitre de ceux qui méritent, ou du mérite d'une personne de la sunna, ou d'être appelé des gens de la sunna, par son amour de Ahmed ibn Hanbal. Le chapitre du mérite d'un homme d'être appelé parmi les gens de la sunna, par son amour de Ahmed. Et nous trouvons ainsi d'autres sous-chapitres de son amour de l'imam Malik, de son amour de Hammad ibn Zayd parmi les grands imams, les montagnes de la sunna. Donc ici, par Ahmed ibn Hanbal, il rapporte Ibn Abi Hatim dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, qui fait partie des livres de référence. Je vous avais dit dans le cours précédent que je vous rapporterai cela aussi, un des grands livres de référence de la science de Al-Jarh wa Ta'dil, le livre de Ibn Abi Hatim, qui rapporte beaucoup dedans des paroles de son père Abu Hatim Ar-Razi et de son ami intime Abu Zur'a Ar-Razi. Il rapporte de son père Abu Hatim, qui faisait partie des imams de la sunna, Abu Hatim Ar-Razi. Il dit, si tu vois un homme qui aime Ahmed ibn Hanbal, sache que cet homme fait partie des partisans de la sunna. De même qu'il rapporte de Qutayba ibn Sa'id, l'imam, la même parole. De même, une parole qui est proche où il dit, et si tu vois que cette personne déteste Ahmed, détache-toi de lui, lave-toi-en les mains. De même qu'une parole qui est connue de Qutayba ibn Sa'id, rahimahullah l'imam, une personne est venue lui demander, lui a dit, une personne qui dit que les gens de la sunna sont un peuple mauvais, les gens de la sunna et partisans de la sunna sont un peuple mauvais. Il dit, Qutayba ibn Sa'id, zindir, 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 hypocrite, hypocrite, hypocrite. Les gens qui aiment, les gens de la sunna s'aiment entre eux. Les gens de la sunna aiment les gens de la sunna et ils aiment les imams de la sunna. Et les gens de l'innovation détestent les gens de la sunna et détestent les imams des gens de la sunna. C'est pour ça que Abu Hatim et Abu Zur'a Ar-Raziyain, dans leur livre Usul Sunna, ils ont un livre aussi qui s'appelle Usul Sunna que l'imam Al-Lakai rapporte ici juste après la croyance de l'imam Ahmed. Je vous lirai ça la semaine prochaine inshallah ta'ala pour vous montrer que l'ensemble des imams de l'islam étaient sur la même croyance, sur la même voie. Il rapporte, il dit rahimahullah, où ils disent Abu Hatim et Abu Zur'a, alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Les signes ou le signe des gens de l'innovation de parler, de critiquer les gens de l'athar, les gens de la sunna, les gens qui prennent de l'athar de Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et de As-Sahaba et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Je terminerai simplement par ce point. Ici, lorsqu'on dit usul as-sunna, les fondements de la sunna, on a compris ce que c'était as-sunna. Ça englobe donc la croyance et la voie, le manhaj. Et ce n'est pas as-sunna selon sa terminologie précise particulière. Al-usul, usul, fondement, c'est le pluriel de fondement, donc un fondement, et qui est le pluriel en arabe de asl. Al-asl, ce terme-là, en fonction de la science qui sera étudiée, aura une compréhension qui divergera. Par exemple, l'asl chez les gens de Usul al-Fiqh n'est pas la même chose que l'asl chez les gens, chez les savants de l'aqida. Et si on étudie l'aqida, le manhaj, qu'est-ce que l'asl ici? Ce n'est pas la même définition qu'on trouvera dans les livres de Usul al-Fiqh, de fondement de jurisprudence. Ici, l'asl, pour résumer, je l'ai déjà évoqué précédemment, c'est le fondement, c'est la chose que si une personne la contredit, sort de la sunna. L'asl, le fondement, c'est une chose que si une personne la contredit, sort de la sunna. C'est-à-dire que tous ces fondements que nous allons voir sont des bases, des fondements afin d'être une personne parmi les gens de la sunna. Et la personne qui sort d'un de ces fondements, même s'il croit en tout le reste, comme le dit l'imam Ahmed lui-même, comme on va le voir dans les cours prochains, même s'il croit en l'ensemble des fondements, sauf celui-ci, il sort de la sunna. Quelqu'un qui croit en toutes les croyances des gens de la sunna sur les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur as-sahaba, sur, mais qui voit le khuruj, la sortie contre le gouverneur. Khariji, wala karama. C'est un khariji, c'est un takfiri, on le délaisse même s'il croit en tout le reste des fondements de la sunna. Cette chose-là, le fait qu'il voit la sortie, la révolte contre le gouverneur, parmi les gens de la bid'a, lave-toi les mains de lui. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين